Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Bonjour, vous écoutez Minute Papillon, je suis Anne-Laetitia Béraud et aujourd'hui on parle de fibromutérin. Chez les femmes en âge de procréer, une femme sur trois va développer un fibrome utérin. Le fibrome utérin, c'est une tumeur bénigne. Mais le fait que ce soit bénin ne veut pas dire que c'est rien, que cela ne peut pas avoir de conséquences. On parle de fibrome utérin, de ses éventuels symptômes, ses conséquences, les traitements avec Aissatou Sidibé, infirmière clinicienne à l'unité mère-enfant du centre hospitalier de l'Université de Montréal, au Québec. Patiente experte, elle a créé le blog Fibromel, puis l'association Vivre sans fibrome. Elle est co-autrice avec Marie-Josée Thibert du livre Endométriose et fibrome utérin aux éditions Lithos Santé. Bonjour Aissatou, tout d'abord c'est quoi un fibrome utérin ?
En fait le fibrome utérin c'est tout simplement une masse qui se trouve au niveau de l'utérus à plusieurs emplacements, de la taille d'un petit pois à la taille d'un pamplemousse et qui peut être très handicapant pour la femme. L'un des premiers symptômes, les saignements, des douleurs importantes, problèmes au niveau de la fertilité et aussi une sensation d'avoir une pesanteur abdominale. Contrairement à l'endométriose, c'est quelque chose qui peut être visible, voire même palpable. C'est quand même impressionnant quand on voit ces tumeurs non cancéreuses. Donc c'est un piège parce que quand on entend bénin, on se dit que c'est pas cancéreux. Mais l'impact en fait, au niveau des activités physiques, au niveau de la vie quotidienne, peut être très, très, très handicapant. Et j'en ai eu cette expérience-là en novembre 2013 quand je me suis retrouvée justement à l'hôpital.
On va rappeler l'endométriose, le fibrome utérin, l'adénomyose, ce sont des maladies typiquement féminines, c'est-à-dire des personnes qui ont un utérus. C'est pour ça qu'on va utiliser dans ce podcast le genre féminin, même si ça ne se réduit pas aux femmes, aux personnes qui ont un utérus. Le diagnostic n'est pas toujours facile parce que la maladie, elle est méconnue. On le rappelle, entre 5 et 7 ans, le délai de diagnostic en France ou au Canada pour détecter ces fibromes utérins. Pourquoi un tel délai ?
Le manque d'informations. Je suis infirmière et jamais dans mes études, j'avais entendu parler de fibromes utérins. Jamais au sein de ma famille non plus. Pourtant, on est 5 filles. Je suis la seule à avoir eu des fibromes utérins. Il y a des personnes, hein, il y a même des familles à fibromes, tout comme l'endométriose, où c'est une information qui va se transmettre de génération en génération. Et ça, c'est une bonne chose. C'est bien de communiquer justement avec ses proches parce que parfois, on peut éviter justement certaines situations et on peut s'informer aussi au sein de la famille. Mais quand on n'a pas grandi avec ces termes-là et qu'au sein même de la société, hein, ce n'est pas des choses qu'on entend parler souvent maintenant, oui, mais fibrome, endométriose, adénomyose, où est-ce qu'on en parle en fait ? Est-ce qu'il faut attendre de voir un médecin ou un gynécologue pour s'informer ? Et là, il y a un problème parce que même en termes de formation professionnelle, c'est des choses aussi même que les médecins parfois ne maîtrisent pas. Donc on peut très bien voir un médecin et un gynécologue et passer à côté de ce problème-là si on n'insiste pas sur nos symptômes et si on ne demande pas à voir justement à passer une échographie pelvienne ou tout simplement une prise de sang.
On a parlé des symptômes, donc des saignements. Parfois, il n'y a pas de symptômes. Parfois, il y a des grosseurs. Parfois, il y a certaines douleurs, mais parfois, rien du tout. Quelles sont les conséquences possibles des fibromes ? Alors, j'imagine que c'est un peu différent entre le fibrome qui a la taille d'un petit pois et celui qui a la taille d'un pamplemousse.
Parfois, la femme va consulter parce qu'elle veut tomber enceinte et qu'elle a de la difficulté à tomber enceinte et que là, on va faire une échographie pelvienne et on va savoir qu'il y a des fibromes utérins. Après, les conséquences, et principalement pour les femmes noires, c'est problématique parce qu'elles ont des fibromes plus gros, plus nombreux, à un âge plus précoce et elles vont être à risque d'une chirurgie assez précocement en fait. Moi, j'ai eu ma première chirurgie à 32 ans. Mes fibromes sont revenus, parce que c'est une maladie chronique. Je n'ai pas encore d'enfant. La chirurgie peut être une conséquence à l'infertilité aussi, et ça, il faut préciser. Et donc, les conséquences, principalement autour de la chirurgie, hein, une femme qui se fait opérer dans les fibromes utérins, l'un des principaux traitements, tout comme l'endométriose, il n'y a pas de traitement définitif, mais ça va être l'hystérectomie.
L'ablation de l'utérus.
C'est ça, totalement. Donc, on pratiquait ça déjà dans les années 1900, 2000, 2020. Où est-ce qu'on va encore ? J'avais discuté avec une patiente une fois qui m'avait dit, qui avait 68, 70 ans, et qui m'avait dit, si j'avais su qu'il y avait d'autres moyens pour retirer mes fibromes, jamais je n'aurais enlevé la maison de mes enfants. Aujourd'hui, en France, on peut parler d'embolisation artérielle.
Oui, ça, c'est vraiment une spécificité presque française.
C'est ça. Depuis 1990, c'est ce qu'on pratique. Et j'inviterai justement les lecteurs et les lectrices à faire de la documentation là-dessus, ouais. Parce que ça peut éviter une chirurgie. On parle des ultrasons aussi.
Ça aussi, c'est très rare.
C'est
mais
ça.
On va définir voilà, embolisation voilà. Et l'IRM par ultrasons. Alors, qu'est-ce que c'est ces deux techniques qui sont non-invasives ou moins invasives que la chirurgie de l'ablation de l'utérus ?
Il y a aussi donc, l'ablation de l'utérus, mais il y a aussi l'ablation des fibromes. Donc, on appelle ça une myomectomie. Donc, myome, ablation des fibromes. Mais ça aussi, hein, c'est vraiment 2 mois de convalescence, la personne ne travaille pas. Donc les conséquences quand même sont quand même assez lourdes, même d'un point de vue économique et sociétal. Hein. Une chirurgie, c'est coûteux. Une prise en charge au niveau des médicaments, c'est coûteux. Quand on parle des médicaments, on parle principalement des médicaments qui vont nous ménoposer. Donc, on va créer une ménopause artificielle, bouffée de chaleur, perte de mémoire.
Sécheresse vaginale,
irritabilité. Donc, c'est pas le fun. C'est pas le fun d'avoir des fibromes quand
on peut éviter.
C'est ça. Tout comme l'endométriose. Et j'insiste en faisant justement le parallèle avec ces deux pathologies. Parce que bien que d'un point de vue médical, elles sont différentes, mais au niveau des causes et des conséquences et de la prise en charge, il y a beaucoup de similitudes. Et ça, c'est important justement de parler d'une seule voix parce que mon histoire est très similaire à celle de Marie-Josée et c'est pour ça justement qu'on a réussi à faire ce beau livre. Et moi je le dis, hein, si j'avais pu inviter d'autres femmes pour nous parler d'adénomiose, de syndrome ovarien polykystique, d'infertilité, je l'aurais fait avec grand plaisir.
On va revenir sur l'embolisation, c'est quoi ?
Alors l'embolisation, c'est pas une chirurgie et ça c'est très important, c'est un traitement non-invasif qui va à travers une petite sonde qu'on va introduire au niveau de l'artère fémorale, bloquée à travers des petites particules dans le vaisseau du fibrome utérin pour qu'il nécrose. C'est comme si on créait un infarctus du cœur, mais là, ça va être un infarctus du fibrome et il va diminuer. Mais là encore, il faut être vigilante parce que toutes les femmes ne sont pas éligibles à l'embolisation artérielle, toutes les femmes ne sont pas éligibles aux ultrasons et peut-être que cette femme-là aura besoin d'une hystérectomie dans son cas précis. Mais c'est toujours intéressant d'avoir l'information pour qu'elle puisse faire son choix. Dans le cas de l'embolisation artérielle, on précise que ce n'est pas un traitement de première intention lorsqu'on veut avoir des enfants aussi, à cause des risques d'hémorragie, mais ce n'est pas impossible. Il faut en parler, cette option de traitement qui nécessite 48 heures d'hospitalisation, tout comme les ultrasons aussi, hein, parce que c'est quand même quelque chose de révolutionnaire.
Je reviens sur une chose que tu as dit, la prévalence plus importante des fibromes chez les personnes africaines ou afrodescendantes.
Il y a plusieurs explications, le fait que les femmes noires aient des menstruations plus tôt, le fait qu'on utilise des perturbateurs endocriniens aussi à un âge très jeune, très précoce, on va parler du défrisant, des produits chimiques, mais il faut le rappeler, hein, le fibrome utérin touche aussi bien les femmes caucasiennes que les femmes noires, mais chez les femmes noires, c'est très problématique parce qu'elles sont à risque de chirurgie et de chirurgie. Et malheureusement, parfois, il y a un contexte aussi social et de précarité qui va faire en sorte que ça va être extrêmement difficile pour la femme de, justement, se prendre en main.
D'où l'importance de s'informer, mais de s'informer auprès des personnes compétentes, auprès d'associations de patients, de médecins, mais disons des personnes qui savent vraiment sur ce sujet-là et pas... Tout et chacun, parfois sur les réseaux sociaux, qui peuvent avoir une opinion, mais qui n'ont pas forcément une parole scientifique.
Je vais juste peut-être ajouter quelque chose d'important. Ce livre aussi parle beaucoup de santé intégrative. C'est vraiment d'associer la médecine conventionnelle et la médecine complémentaire pour soigner les femmes par rapport à de l'endométriose, fibrome utérin ou syndrome ovarien polykystique, et même adénomiose. Et pour moi, c'est vraiment la médecine du futur. Il y a déjà un gros travail au niveau de l'hygiène de vie à faire, hein, l'alimentation, la gestion du stress, l'activité physique. Et en complément, il y a des professionnels qui pourraient accompagner ces femmes-là. Et ça, c'est important aussi à envoyer pour que la femme puisse être actrice de sa santé et de voir et de consulter le thérapeute dont elle a besoin.
Plus d'informations sur les maladies gynécologiques comme l'endométriose, le syndrome des ovaires polykystiques, retrouvez tous nos articles, nos podcasts sur 20minutes.fr. Merci d'avoir écouté cet épisode de Minute Papillon, un podcast d'Anne-Laetitia Béraud pour 20 minutes. S'il vous a plu, n'hésitez pas à le partager sur les réseaux sociaux, à en parler autour de vous. À très vite et d'ici là, bonne écoute des podcasts de 20 minutes comme L'été dans vos oreilles.
Small details are big surfaces. Tight corners are odd shapes. Flat, rounded, textured or tall. Whatever your next project, there's a spray paint pattern that's just right. Because Rust-Oleum's new Custom Spray 5-in-1 gives you control with 5 different spray patterns. So you can tackle nooks, crannies, edges, and curves without worrying about drips, runs, uneven coverage, or anything else. Custom Spray 5-in-1. Only from Rust-Oleum.
Hey, folks. I'm Mark Maron from the WTF Podcast, and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues, your ally to help tackle your allergy symptoms this season. I love the change of seasons, but nobody loves pollen and all those other things floating in the air that make you sneeze during this nice weather. Kleenex Ultra Soft Tissues are hypoallergenic and allergist approved. So fight back against watery eyes and runny noses without worrying about irritating your skin. For this allergy season, grab Kleenex and face allergies head on.
On ne va pas se quitter comme ça. Vous avez aimé cet épisode ? Sportif, généraliste, sexo ou scientifique, varié mais toujours bien informé. Découvrez les autres podcasts de la rédaction 20 minutes sur votre application d'écoute préférée ou directement sur podcast au pluriel.20minutes.fr. Et merci de nous avoir écoutés.